Bonjour, voici en nouvelle diffusion dans une version légèrement rafraîchie, une émission spéciale enregistrée sous les nefs à Nantes en plein cœur du festival TECAP, festival pour tous, handicap ou pas. Avec les complicités d'Olivier Rabalan, de Daniel Raffalin et de Yann Le Tailleron, je reçois Saba Mimoun, investi dans de nombreuses organisations de festivals dont TECAP, Emmanuel Rouéné, coprésident du festival TECAP, Valérie Liep de Cailleux, première adjointe aux solidarités, chargée de l'insertion sociale et professionnelle, ville de Saint-Aignan-de-Grandlieu, Denis Turmel, directeur du Zénith de Nantes Métropole, Renzo de l'association des Barons Perchés. La traduction en langue des signes est assurée par Manon Rossetti. Nous rejoindra en fin d'émission le parrain de cette édition, Philippe Croison.
On essaye au maximum d'intégrer dans nos réflexions les personnes qui sont les premières touchées par,
Renzo.
Par ces formes d'exclusion en fait. Donc voilà, on développe actuellement notamment des caissons vibrants qui sont là en expérimentation sur TECAP et qui permettent de décomposer un peu la musique sur des fréquences sourdes. Donc les gens montent sur les caissons, ressentent les vibrations et voilà, on essaye d'expérimenter ce genre d'outils. Voilà, donc c'est, on est vraiment tout le temps dans une démarche d'amélioration et d'expérimentation.
Saba, vous avez testé le caisson vibrant ?
Oui, ouais, c'est vraiment super. Mmh. Ouais, j'ai ressenti les vibrations. J'ai eu vraiment l'impression de ressentir ce qu'un entendant entend quand il écoute de la musique. Il y a les sons bas qui sont par les pieds, les médiums qui sont par les mains, et c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment une accessibilité complète pour les sourds au niveau de la musique. On se sent vraiment égalité avec tout le monde.
Daniel ?
Oui, alors justement, le caisson se présente comment ? Parce que c'est un peu inquiétant, le mot caisson, on a l'impression peut-être de se trouver enfermé dans quelque chose. Et si c'est pour l'instant c'est un laboratoire, c'est expérimental, ça se présente comment ? C'est un cube sur lequel on s'assoit, il y a une selle, il y a un siège.
Alors en l'occurrence, les gens sont en position debout parce qu'on parle d'apprécier la musique en situation de concert. Donc ça serait délicat de demander aux gens de s'enfermer dans une boîte et de s'asseoir. Là, les gens sont debout sur une caisse qui fait une vingtaine de centimètres de hauteur. Et donc ressentent les basses par le sol en fait. Et ce qu'on rajoute en ce moment, c'est une espèce de pupitre à hauteur des mains. Donc pupitres sur lesquels les gens peuvent percevoir d'autres fréquences que les basses fréquences, qui sont souvent les fréquences les plus simples à ressentir. Mais nous, on a essayé d'affiner la proposition en décomposant le son, les différentes fréquences pour se rapprocher au maximum de ce que nous, entendant, nous pouvons percevoir. Et ça fait plaisir d'entendre Saba, qui a expérimenté la machine, dire qu'effectivement, on approche vraiment quelque chose de plus sensible.
C'est un concept nantais
Non, en général, non. On invente peu de choses.
Mais ça existe déjà
à Dijon notamment, c'était expérimenté la vapeur, donc une salle de spectacle avait déjà travaillé là-dessus. Il se trouve que nous, avec TECAP, notamment aussi avec des assos donc adhérentes à TECAP comme Caisse Tandy, qui participe notamment à l'organisation du festival Au Fond de la Rue, il y a des colonnes vibrantes qui existent. Mais ces caissons vibrants qui décomposent le son sur différentes fréquences, ça doit peut-être se faire, mais en tout cas, on n'en a pas vu spécialement. Donc voilà, on essaye juste d'aller toujours un peu plus loin en fait.
Comment un directeur de salle comme le Zénith apprécie ce genre de choses?
Est-ce que vous l'avez testé, ce caisson? Non. Oui, vous. Tout le monde peut le tester.
Non, je ne l'ai pas testé. En fait, la première fois que j'en ai entendu parler, c'est Jade Cléricy qui est venue nous voir pour le collectif TECAP et qui m'en a parlé. Donc, j'allais dire, moi, j'ai une approche pragmatique de l'ensemble de ces questions-là. Je sais tout de suite ce que les producteurs qui me louent le Zénith vont me répondre. Ouais, mais c'est toujours compliqué. Ouais, c'est compliqué. Eux, ils arrivent le matin, donc avec 25 semi-remorques, faut que ça monte et que ça démonte, machin. Ce qu'il faut leur faire comprendre, j'allais dire, faut les prendre à leur propre piège. Faut leur dire, voilà, toutes les personnes en situation de handicap, en général, c'est des clients. Voilà, vous vendez des billets, donc à partir de ce moment-là, on peut arriver à se parler. À partir du moment où c'est des clients et vous voulez les avoir comme clients, il va falloir décliner un certain nombre de dispositifs pour ça. Après, ensuite, c'est une question de coût de mise en œuvre, de difficulté de mise en œuvre. Mais en tout cas, il faut qu'on se penche sur ce genre d'initiative et qu'on essaye d'avancer là-dessus.
Après, une petite inquiétude, vous disiez 20 cm de haut. Surtout que si on bouge, s'il y a de la musique...
Si on veut être au premier rang...
Il faut qu'on ne chute pas de 20 cm, c'est pas très haut, mais ça peut être un... Est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose qui serait inclus dans le sol, peut-être,
du lieu ? Alors, ça, c'est carrément inclus dans les infrastructures. Il se trouve que pour des questions de résonance, il faut permettre ces caissons, en fait, pour avoir quelque chose qui réponde vraiment aux vibrations. Donc, ces 20 cm sont surtout délicates pour les personnes alcoolisées, je dirais. ce qui est quelque chose dont on a conscience. Quand on organise des événements, mais on va pas commencer à installer des garde-corps. On fait confiance aux gens aussi. Il y a cette part aussi de d'auto-responsabilisation quand on utilise quelque chose. Voilà. Mais l'idée que ce soit indépendant du sol, c'est aussi une question de technique, de vibration en fait.
Oui. Mais il y a aussi, j'ai cru entendre ça dans une émission en fait par Michel, cette douche qui permet aussi d'envoyer du son.
Alors c'est un dispositif plus inclusif. Là, vous rentrez carrément dans un univers. Mais nous, voilà, il y a cette question aussi de la proximité. C'est-à-dire qu'on veut pouvoir se déplacer avec les caissons assez facilement. On veut pouvoir les installer un peu où on veut. On veut que les gens ne se sentent pas séparés du reste. Donc cette question de l'accessibilité physique au sens être inclus dans le groupe, en fait. Moins on aura de dispositifs bloquants, gênants, perturbants, plus les gens se sentiront juste comme les autres, en fait.
Je vais revenir sur ce que disait Denis Turmel. Si je parle à mes producteurs, ils vont me dire « Oh là là, ça va engager trop de frais ». Je dois comprendre que c'est spécifique au Zénith, c'est-à-dire que vous mettez à disposition une coque vide et à chaque fois, c'est au producteur de la remplir.
Oui, à ce titre-là, sans rentrer dans le détail, on fait un métier différent, par exemple, de celui d'Eric à Stéréolux ou au Ferrailleur, etc. Moi, je suis directeur du Zénith, je ne suis pas programmateur. Moi, mon job, c'est... de remplir le Zénith au maximum en termes de calendrier. Donc, il n'aura échappé à personne qu'il n'y a pas de programme, il n'y a pas de ligne éditoriale au Zénith. C'est le mariage de la carpe et du lapin. Un jour, vous avez Oui Oui pour les enfants. Après, vous avez Star 80. Le surlendemain, vous avez du métal. Après, vous avez Patrick Bruel. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle une salle d'accueil. Donc, à un moment donné, j'allais dire, toutes les questions qui sont relatives à l'équilibre économique des spectacles intéresse avant tout au premier chef le producteur. Le producteur, c'est votre locataire, comme quand vous louez un appartement. Donc à un moment donné, vous pouvez lui imposer un certain nombre de choses, vous pouvez l'amener à prendre conscience d'un certain nombre de choses. Plus vous pouvez l'amener à prendre conscience de ces choses quand elles vont dans le sens de son intérêt, et plus vous avez des chances d'arriver au bout avec une solution intéressante. En fait, il faut, comme je disais tout à l'heure, les prendre à leur propre jeu.
Si Saba veut réagir.
C'est vrai que si c'est un sol tout en bois, là, c'est plus aisé pour les personnes. Ça va être sur un sol sur lequel on peut danser. Et c'est vraiment le plus facile et le moins cher des techniques. Peut-être qu'il peut y avoir des amplificateurs sous le sol en bois. En fait, je suis déjà allée à un festival à Rennes qui s'appelle le festival Zan Zen. Et ça concernait tous les sens. Il y avait sur place donc deux artistes qui ont mis en place des panneaux de bois de 20 cm de hauteur. Et en fait, il y avait dessous des sons qui étaient diffusés et qui en fait relayaient ce qui se passait en extérieur. Il peut y avoir des bruits comme des bruits de métro, des bruits de publicité. Voilà. C'était tout synthétisé et ça passait par ces caissons. C'était transmis sous ces plaques de bois. Et en fait, ils diffusaient comme ça des sons par intermittence entre différents bruits de la vie quotidienne. On pouvait donc être assis, debout ou allongé sur ces plaques de bois et s'imaginer voilà, ce que ça rend pour un entendant d'entendre le métro qui arrive ou d'entendre le bruit, je ne sais pas, de tel ou tel truc public. Des bruits de vitres, par exemple. Ça pouvait donner au sourd l'impression de ce que ça rend pour les entendants. Donc on arrivait vraiment à imaginer ce que c'était et c'était vraiment intéressant comme dispositif. Donc effectivement, ça peut être adapté à de la musique concrètement, au niveau des vibrations. Après, c'était quelque chose d'expérimental à voir au niveau financier, mais c'est vrai qu'une surface en bois, rien que ça, ça peut attirer les sourds parce qu'au niveau des vibrations, ça passe beaucoup dans le bois.
Je reviens vers vous, Denis Turmel, décidément. Emmanuel disait qu'il était très bien accueilli au Zénith parce qu'il y avait des dispositifs...
Surtout assez rapides.
Assez rapides. Alors, je ne vais pas le dire comme ça, mais je vais le dire quand même comme ça. Il y a un meilleur marché du côté des personnes aveugles que des personnes sourdes. Je le dis un peu crûment, comme ça.
Oui, Dieu merci, on ne réfléchit pas en ces termes-là. Enfin, ça serait tragique.
J'espère.
Ça serait dégueulasse.
Non, mais...
Ce serait horrible, même.
C'est pas une question de... Je pense que... Pour le coup, voilà, on n'est pas du tout dans le sujet, c'est pas une question de marché. Je pense que c'est une question d'évolution des mœurs. Là, on parlait des caissons. Aujourd'hui, ça semble super avant-gardiste. On a l'air de parler de solutions. On dirait, c'est expérimenté par l'IRCAM ou des choses comme ça. Moi, je me rappelle quand j'allais voir des concerts, j'ai 52 ans aujourd'hui, quand j'allais voir Iron Maiden en 82, le service d'ordre, quand ça bougeait un peu trop, nous gazait... et nous taper dessus. C'est des choses qui se font plus. L'accueil des personnes en situation de handicap, à l'époque, ça n'existait pas du tout. Les choses ont radicalement évolué en 30 ans quand même. Merde, je ne m'en rendais pas compte. 30 ans déjà. Mais quand je disais tout à l'heure, on est au milieu du guet, je pense que ce qui, aujourd'hui, paraît relever de l'expérimentation ou de choses comme ça, oui, non, mais faites ça dans un coin, mais ne nous emmerdez pas trop, rentreront dans les mœurs petit à petit. À partir du moment où effectivement les élus se mobilisent, les producteurs vont changer de génération. C'est pareil, avant on était dans une acception du showbiz un peu années 70, avec des préoccupations qui sont un peu datées aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ces gens-là, ils grandissent dans le même monde que nous. Donc forcément, ils sont sensibilisés aux mêmes choses, au développement durable, etc. Donc je suis quand même relativement optimiste sur le fait qu'on arrive... assez rapidement à faire vieux les choses. J'ai pas du tout répondu à votre question, pardon.
Peut-être qu'elle était mal posée, on va dire ça comme ça. Emmanuel ?
Bah, moi, tout va bien. Par exemple, la dernière fois, c'était... tout à l'heure, je cherchais le nom. Je suis allé voir la comédie musicale de Roi Arthur, par exemple. Musicalement, la sono, tout ça, nickel. Après, les tableaux, s'il n'y a personne avec toi, tu sais pas, quoi. Par exemple, il n'y a pas d'audio description non plus, quoi.
Le politique a été interpellé.
Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'ici, nous sommes en milieu très, très citadin. Saint-Aignan, c'est une commune périurbaine. On peut penser aussi aux personnes en situation de handicap qui sont en milieu rural. Et les conditions d'accès à la culture sont extrêmement différentes selon les milieux. Et même s'il y a une vraie volonté politique de permettre cette accessibilité, il y a la volonté, il y a pouvoir faire. La question du handicap, c'est une question qui est transversale pour des services d'une mairie. Ça touche tous les domaines. Donc déjà, comment on articule ça à l'intérieur d'une petite mairie ? C'est un obstacle supplémentaire. Ensuite, même les mairies, comme Saint-Aignan, qui réussissent à faire des choses, comment on le fait savoir et comment on le revendique ? Est-ce qu'on ose le revendiquer ? Ça va jusque-là. Parce qu'il y a toujours cette espèce de frilosité de dire « Ah oui, mais on va avoir des gens différents qui vont arriver. » Nous avons décidé de mettre des petits panneaux sur, par exemple, notre médiathèque. Notre médiathèque, ça y est, on a fini un travail qui a duré plusieurs années. Elle est parfaitement accessible à toutes les formes de handicap. Eh bien, on va le revendiquer, on va l'afficher. Je pense qu'on a parlé beaucoup des salles de spectacle. Il faut penser aux bibliothèques aussi. Il faut penser aux médiathèques, qui sont des lieux de culture extrêmement importants et que l'on trouve sur tout le territoire d'un département. Dans chaque petite ville, chaque village, il y a une bibliothèque. Et là aussi, il y a un très, très gros travail à faire et une mobilisation forte qui doit se mettre en place.
On a évoqué les déficiences, les gens qui sont malvoyants ou malentendants, mais il y a aussi les gens qui ont des problèmes mentaux. On l'a pas tellement évoqué, ça.
Il faudrait parler de l'association Nous Aussi, justement. Il s'agit de personnes en situation de handicap mental qui disent « Nous aussi, on veut s'intéresser à ce qui nous concerne. Nous aussi, on veut être consultés. » Ils sont accompagnés de bénévoles qui les accompagnent, qui les aident dans des situations de communication. Et ils participent au collectif TECAP, et lorsque nous avons des réunions, leurs interventions sont toujours extrêmement utiles et extrêmement remarquées.
Concrètement, en ce moment, Saba, vous ressentez quoi ? Parce que nous, on a un voisin qui est extrêmement bruyant, non pas qu'il fasse du bruit, mais de la musique sur scène. Vous ressentez quelque chose, là ? Un peu de vibration
Oui, je ressens les vibrations. La scène est assez loin de nous, mais je la sens quand même, oui.
Émission spéciale réalisée sous les nefs à Nantes au cœur du festival TECAP.
Oui, je ressens les vibrations. La scène est assez loin de nous, mais je les sens quand même, oui.
Et pour vous, c'est plutôt agréable ?
C'est mon sixième sens, peut-être.
C'est plutôt agréable comme sensation ?
Oui, c'est agréable. C'est vivant, ça transmet de l'énergie.
Et alors, ça fait quoi d'être en...
Ça passe par le corps et c'est vibrant, oui.
Et ça fait quoi d'être en situation confortable alors que nous, on est obligé de tendre l'oreille ?
Ouais, c'est intéressant. C'est vrai que moi, ça ne me gêne pas. Moi, je trouve ça très agréable. Les vibrations sont là et j'en profite.
Vous êtes d'accord avec tout ce qui s'est échangé ? J'ai l'impression que vous réagissiez parfois.
Oui, là, je suis là, je participe avec vous. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier que toutes les personnes, quelles que soient leurs différences, peuvent vivre ensemble. C'est vrai que le handicap, ce n'est pas forcément sur quoi il faut s'axer. En fait, on a créé ce terme-là, c'est utilisé dans la société. Mais il ne faut pas vraiment s'en préoccuper. L'important, c'est qu'au quotidien, chacun vive dans son monde et qu'on soit vraiment tous ensemble. Voilà, ensemble, point.
Que serait là, pour vous deux, Emmanuel et Saba, l'équipement d'une salle idéale ? Prenez des notes pour
Emmanuel,
les transmettre aux producteurs, Denis. Emmanuel, allez-y.
Alors moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on reprend que l'exemple du Zénith, il n'y a pas grand-chose à corriger. Quand je l'ai dit tout à l'heure, des comédies musicales, peut-être faire un système d'audio-description. Mais après, comme la dernière fois, je suis allé voir Toto, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit, par exemple. Le son était bon. Enfin bon, voilà quoi. Pour moi, il n'y a rien à corriger. Quoi.
Ça va.
Ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au bois, un plancher vibrant en bois pour avoir les vibrations qui passent par tout le corps, ça serait vraiment l'idéal. Ensuite, mettre de la langue des signes sur scène par du chant en signe, bien sûr, ça serait encore mieux. Je sais pas, des colonnes vibrantes, le système qu'ils ont mis en place du vent vibrant, peut-être. Oui, ça serait encore mieux. Il y a plein de solutions à mettre en place. Voilà.
Nous allons accueillir le parrain de cette édition du festival TECAP, Philippe Croizon. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir aujourd'hui ici nous accompagner ?
Le soleil ?
Le soleil ?
Non, la motivation, elle était simple. Hein, quand TECAP, le collectif TECAP m'a appelé pour me proposer d'être le parrain de cet événement. Si vous entendez ma voix saccadée, c'est qu'on est en train de régler le micro. Voilà, ça devrait tenir là-bas normalement. Voilà, on lâche tout. C'est bon, ça tient.
Ça tient.
Oui, quand ils m'ont appelé pour me proposer d'être le parrain, effectivement, on me demande d'être le parrain d'énormément de manifestations. Et malheureusement, je ne peux pas être partout. Je me suis déjà coupé en quatre, donc je ne peux pas faire mieux. Mais cette manifestation m'a parlé vraiment parce que déjà, la grandeur de la manifestation et tout ce qu'elle représente en changement de regard sur notre société, sur les personnes en situation de handicap. On a besoin de ce genre de manifestation. Le lambda en a besoin. Donc, quand on m'a appelé pour me dire « Est-ce que tu veux bien être parrain ?» Sans réfléchir, j'ai dit oui tout de suite. Et après, ils sont venus à la maison, ils sont incrustés, je dirais même, hein, parce qu'ils devaient venir une matinée, et à la fin de la journée, j'ai ouvert la porte, j'ai dit « Maintenant, vous pouvez partir, s'il vous plaît ?» Pour vous dire qu'il y a une belle ambiance, il y a une belle énergie, et quand il y a une énergie comme ça, on ne peut que dire oui.
Vous aussi, vous avez plein d'énergie.
En même temps, j'ai pris 20 000 volts. Voilà, dans l'accident, j'ai pris une décharge de 20 000 volts. Donc je pense que j'ai gardé un peu d'énergie.
Pour traverser les océans.
Exactement, traverser la Manche, après relier les cinq continents à la nage. Voilà, encore une fois, c'est le message qu'on a voulu livrer tout à l'heure, quand je suis monté sur scène, c'est de dire que tout est possible. Effectivement, notre handicap, il est dur au quotidien, il est difficile. Moi, je t'ai expliqué tout à l'heure, j'ai eu la chance d'avoir une famille, des amis qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu. J'ai pu franchir les fameuses phases, le déni. La colère, l'acceptation, la phase de dépression, j'ai réussi à les passer grâce à ma famille et à mes amis. Mais beaucoup de personnes en situation de handicap, malheureusement en France, n'ont pas cette chance-là. Et donc c'est les associations qui remplacent ce manque d'amis, ce manque de famille, ce manque d'affectif. Et toutes ces associations-là qui sont là, qui font un travail extraordinaire au quotidien et qui sont dans l'ombre toute l'année, et grâce au festival TECAP, ils sont mis en lumière.
Thank you.
grâce au festival TECAP, ils sont mis en lumière. Et ces associations-là, qui sont dans les petites communes, très souvent, bah, ils vont vers la personne en situation de handicap qui est toute seule et qui n'ose pas aller vers l'autre. Ils vont le voir et disent, écoute, viens chez nous, viens voir. Et ces associations-là sont, pour moi, un outil de résilience important pour toutes ces personnes-là.
À la suite de tous vos exploits en natation, là, vous êtes venu sans doute aquaphobe. Et maintenant, vous êtes, alors on va dire quoi, sablophile, désertophile
On va dire qu'après avoir bu la tasse, j'ai décidé de mordre la poussière.
Parlez-nous un petit peu de vos essais. Alors, vous avez un nouveau joujou.
Oui, un nouveau jouet. J'ai demandé au Père Noël qu'il me livre un gros véhicule de course pour être pilote sur le Dakar 2017. Encore une fois, tout est possible. Vous savez, à chaque fois que je me lance dans une aventure, 99% des gens me disent « Mais non, c'est pas possible, tu peux pas faire ça. » Et il y a 1% qui y croit, et bizarrement, ce 1%, il vous emmène à la victoire. Je ne dis pas que je vais aller à la victoire encore dans ma prochaine aventure. Je dis là, on est en train d'essayer. On a modifié un véhicule de course pour qu'il soit adapté à mon handicap. Là, on arrive du Maroc, où j'ai fait mes premiers essais. J'ai cassé la voiture les premiers jours. On l'a réparé, on l'a remis en état, et j'ai recommencé comme à chaque fois. Plein de gens m'ont dit, mais tu ne peux pas traverser la Manche à la nage. 2 ans avant de traverser la Manche à la nage, je ne savais pas nager. Là, pour le Dakar, 1 an avant... Je ne savais pas conduire une voiture, pas une voiture de course du moins. Et donc là, on s'entraîne, les ingénieurs travaillent comme des fous. Mais encore une fois, je le fais pourquoi ? Parce que j'ose les choses, j'essaye. Et bizarrement, ça fonctionne.
Il ne suffit pas de fréquenter les caves pour connaître les tonneaux. Oui, Daniel ?
Je vais demander à Philippe s'il a un planning, des prévisions, des futures tentatives qu'il espère faire.
D'entraînement, là, on arrive du Maroc, donc on a j'ai un peu cassé la voiture. Ouais. Donc là, ils sont en train de la réparer. Après, on va tourner sur certains circuits français. Ensuite, on a une course en Espagne pour se préparer une course FIA, une course internationale. Ensuite, le rallye du Maroc en octobre. Et normalement, si tout va bien, en janvier, je suis en Amérique du Sud pour le Dakar, le rallye le plus dur du monde pour pouvoir le faire.
Alors après la voiture, ce sera ?
Le premier handicapé dans l'espace. On verra.
Vous avez des idées sur les, je dirais, bon là on est dans la voiture, mais sur les années
non,
à venir.
Non, il y a pas d'idée. Non, il y a pas d'idée. C'était après la Manche, j'imaginais pas que j'allais relier les 5 continents à la nage. Simplement, je pouvais pas me séparer de mon équipe. Je voulais pas retourner dans mon canapé. J'avais vécu dans mon canapé pendant 10 ans. Tu sais, je suis comme toutes les personnes en situation de handicap. J'ai eu des hauts, des bas. J'ai voulu me mettre fin à mes jours. Je suis revenu. Et j'ai rencontré Susanna, qui est une histoire d'amour extraordinaire, qui m'a donné des ailes. Il n'y a pas Crête Bulle qui donne des ailes, excusez-moi pour la pub, mais il y a Sûreté l'amour. L'amour est un outil de résilience extraordinaire, encore une fois. Et donc, Susanna m'a offert sa vie pendant 5 ans pour que je puisse réaliser mes rêves. Et un matin, je me suis réveillé, je dis, tiens, j'ai envie de faire le Dakar. J'ai appelé mon agent, j'ai appelé 2-3 personnes, ils m'ont dit, arrête, tu nous fais chier. Franchement, putain, tu veux pas trop poser 2 minutes. Je dis, non, j'ai envie de faire le Dakar. Et on est parti dans cette aventure de dingue encore une fois.
Vous arrivez à passer une journée sans rien faire chez vous
ou... Non, parce que là, faut que je prépare ma chronique pour le magazine de la santé sur France 5. Je suis en train d'écrire un 4e bouquin sur le handicap et l'humour, puisque l'humour aussi a été un outil de résilience important pour moi dans le handicap. Je pense que s'il y a un message à faire passer aujourd'hui, effectivement, on vit dans une société qui est difficile. On l'a compris, mais il ne faut pas voir le handicap égal Cosette et Thénardier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes handicapées, il y a beaucoup de jeunes qui s'investissent dans l'éducation, qui veulent avoir Bac plus 3, Bac plus 5. C'est eux qu'il faut regarder. Vous avez des jeunes qui vont faire du sport, qui vont aller aux Jeux paralympiques. C'est eux qu'il faut regarder. C'est eux l'exemple. Aujourd'hui, on vit dans une société qui vit difficilement. Si j'avais un message à délivrer à la société, vous ne savez plus où regarder. Regardez vers l'univers du handicap. Regardez vers ces gens qui ont traversé des épreuves très très dures et qui sont encore là aujourd'hui. Si vous avez envie que la société bouge, dirigez-vous vers eux. Franchement, il y a un message fort de ce côté-là.
Oui, on adhère pleinement.
Ouais. Philippe Croison, juste en quelques minutes, vous pouvez nous décrire votre voiture ? Ça nécessite quoi comme équipement ? Vous conduisez avec votre langue ? Parce qu'on dit qu'on
vous
faut pratiquer
des vous avez été gentil, parce qu'on m'en a coupé 4 sur 5.
On a dit que l'humour, hein, c'est essentiel. Hein.
Exactement. Ben, vous savez, on m'a dit que je m'en étais servi comme gouvernail pour traverser la Manche. Donc, pour équilibrer la quille... Et donc, et là, je conduis la voiture avec un système de joystick, sans toucher le volant ni les pédales. Donc, j'ai un joystick avec accélération, freinage et direction, et un petit joystick à gauche avec pour passer les vitesses, monter et descendre les rapports. Donc voilà, c'est une grosse usine à gaz qu'il faut arriver à régler pour mon handicap. Donc, on n'y est pas encore arrivé. On a tourné pendant 10 jours au Maroc. On n'est pas satisfait du résultat. Donc, les ingénieurs travaillent. Moi, mon objectif, c'est pas de gagner le Dakar. Hein. c'est d'aller au Dakar.
Ouais, ouais, c'est ça.
C'est de montrer que c'est possible. C'est de prendre le départ. Et je l'espère, franchir la ligne d'arrivée.
Il y a de la peur de temps en temps dans tout ce que vous faites.
Si j'ai peur, mais tout le temps que j'ai peur. Mais la peur est constructive. Il ne faut pas que la peur soit destructive. Quand j'ai peur, quand je pars dans une aventure, vous savez, mon mode de fonctionnement, c'est j'ai une idée, après j'ai les infos, je réfléchis et j'ai peur, mais c'est trop tard. L'aventure est lancée. Donc à chaque fois que j'ai peur, je demande aux ingénieurs ou à mon équipe comment je peux arriver à combattre cette peur-là. Et on trouve les solutions. Et après, on y va. Vous savez, quand on part dans une aventure, le doute, il démarre depuis le début qu'on a eu l'idée. Quand je me réveille, je dis je vais faire le Dakar, ça y est, le doute est là, il s'installe. Mais le renoncement, non. J'ai connu le renoncement deux fois dans ma vie quand j'ai voulu mettre fin à mes jours. J'ai plus envie de le reconnaître, j'ai plus envie de le revoir. Donc maintenant, le renoncement, non, je connais plus.
Ouais. Vous sortez quelquefois ? Vous avez le temps d'aller dans les salles de concert ?
Oui, j'aime beaucoup dès que j'ai un petit peu de temps, mais malheureusement, le temps manque un petit peu. Mais dès que j'aime bien aller au concert, aller au théâtre et... Dès que je peux. Dès que le théâtre est accessible, j'y vais. Après, moi, mon cheval de bataille, c'est pas tellement l'accessibilité à la culture, c'est plutôt l'accès à l'école. Effectivement, quand on sait qu'aujourd'hui, 10 ans après la loi d'accessibilité, seulement 15% des collèges sont accessibles en France. Tout à l'heure, je parlais des jeunes qui veulent s'investir pour avoir Bac plus 3 et Bac plus 5. Il y a encore la moitié des jeunes aujourd'hui en France qui n'ont pas d'auxiliaire de vie, à qui on dit « on est désolé, on n'est pas capable de mettre 800 euros pour toi par mois ». Pour t'emmener à Bac plus 3, Bac plus 5. Mais rassure-toi, mon petit, on n'est pas capable de mettre 800 euros par mois pour toi, pour avoir une auxiliaire de vie. Mais rassure-toi, on te donnera 800 euros par mois à vie pour que tu puisses vivre. Il n'y a pas un problème d'équilibre ? Je sais pas, moi, soit je suis con ou je comprends pas, mais il y a un problème d'équilibre. Pourquoi on ne peut pas mettre 800 euros par mois tout de suite pour ce gamin, pour qu'il puisse vivre du fruit de son travail et pas vivre au crochet de la société ? Parce que depuis des années et des années, on a formé quoi ? On a formé des personnes handicapées qui vivent au crochet de la société, enfin au crochet, excusez-moi, c'est pas au crochet, c'est qu'ils sont obligés de vivre avec une AAH, une allocation adulte handicapé, parce qu'ils n'ont pas été formés au travail. Et aujourd'hui, on a créé des lois pour que les entreprises embauchent 6% de personnes handicapées à partir de 20 salariés, mais les entreprises disent, mais nous on veut, mais il n'y a pas de personnel compétent sur le marché. Voilà pourquoi on marche sur la tête. Et voilà pourquoi ça m'énerve un petit peu aussi.
Voilà, il me semble qu'Emmanuel veut prendre la parole.
Je vais juste compléter ce que dit Philippe, parce que là, c'est ainsi mon cas. J'ai voulu entreprendre une formation en tant que conseiller relations clientèle à distance. Je ne fais pas la formation. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'au bout du compte, il y a 3% des gens qui ont été embauchés sur ces formations. 3% de gens handicapés visuels qui sont embauchés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nos employeurs... Ils sont assez frileux quand même. Et du coup, ça nous fait un petit peu reculer également.
Saba, vous avez une question à poser à Philippe. En tout cas, vous appréciez son humour. Hein. J'ai vu que vous esclaffiez. Je ne sais pas comment ça se traduit en langue des signes.
Ah bah moi, le langage des signes, je vais avoir du mal. Hein.
Avec les yeux.
Non. Pour faire suite à ce qu'il a dit, par rapport aux études, oui, effectivement, pour les personnes sourdes, c'est le même blocage qui arrive. En fait, on n'a pas d'interprétation des cours. Peu d'heures sont traduites. Du coup, ça nous freine dans les études. C'est la même chose pour nous. Et du coup, le chômage est assez important pour les personnes sourdes. On est dépendant de la AAH. Oui, effectivement, il y a les mêmes freins pour les personnes sourdes. Il y a vraiment peu d'accessibilité aux études. Avant, il y a des classes bilingues, c'est des classes pour enfants sourds, où on apprend la langue des signes et le français écrit. Effectivement, c'est des classes qui seraient vraiment importantes, mais ces classes-là sont très restreintes et elles ferment. Donc voilà, la situation est assez problématique et c'est vraiment dommage pour nous.
Merci à Saba Mimoun, Emmanuel Rouenet, Valérie Liebe de Cailleux, Denis Turmel, Manon Rossetti, Philippe Croison pour leur libre participation à cette émission spéciale réalisée au cœur du festival TECAP avec les complicités d'Olivier Rabalan, de Daniel Raffalin et de Yann Le Taïron.